Je vous invite à lire avec moi ce verset dans Luc chapitre 16, un verset bien connu que nous allons méditer ensemble cet après-midi. Luc chapitre 16 et le verset 10, il est question d'être fidèle et en particulier dans des petites choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables ? Amen. Dans ce passage, nous voyons qu'il est question des petites choses, mais en particulier de la richesse que Dieu nous donne ici-bas sur cette terre, comparée, c'est ça la petite chose, comparée aux grandes choses que nous allons trouver dans le ciel. Est-ce que vous croyez que ça sera quelque chose de merveilleux, ce qu'on va trouver dans le ciel? Les richesses d'ici-bas pâlissent quand on imagine ce qu'il y aura là-haut. On ne peut qu'imaginer, on ne peut que pressentir ces choses au travers de ce que la parole nous partage. Cet après-midi, je voudrais un petit peu élargir le cadre de ce partage en prenant ce verset. Vous m'excuserez, Monsieur Olé, en le sortant un petit peu de son contexte, en le prenant dans cette vérité que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. C'est un verset qui est vrai aussi en soi, tout simplement. Et il y a en particulier, il y a différentes sortes de petites choses. Il y a des choses qui sont de nature différente. Il y a des choses qui sont dans des catégories différentes. Au travers de cela, nous allons réfléchir. Les petites choses, par exemple, à respecter. Ce sont des bonnes choses. Des bonnes choses qui sont petites, mais qui sont bonnes, et qu'il faut chérir. Est-ce que, par exemple, la prière, ça demande un combat extraordinaire que d'aller dans sa chambre et d'ouvrir son cœur au Seigneur? Est-ce que c'est, en soi, est-ce que c'est difficile? Je veux dire, c'est sûr qu'il faut prendre la décision de le faire, mais quand on le fait, est-ce que c'est dur? Il suffit de parler au Seigneur. Quelqu'un nous disait cette semaine, mais comment est-ce qu'on fait pour prier? Comment il faut faire? Il faut parler. Si on sait parler, si on s'adresse à Dieu, eh bien c'est ça la prière. Lire la parole, est-ce que c'est difficile d'ouvrir la Bible dans sa chambre et de lire la Bible? Il n'y a qu'à ouvrir le livre, tout simplement, et à laisser l'Esprit de Dieu nous communiquer quelque chose. Bien sûr, encore une fois, il faut prendre la décision de le faire. Mais ce sont des bonnes choses qui ne sont pas très difficiles, mais qu'il faut s'appliquer à faire, justement. Ça, c'est être fidèle dans les petites choses. Il y a des petites choses à refuser. C'est les mauvaises choses cette fois-ci. Mais des fois, les mauvaises choses, elles n'ont pas besoin d'être énormes pour devenir des obstacles dans nos vies. Si on en accumule un grain de sable par-ci, un grain de sable par-là, au bout d'un moment, les rouages de la machine, ils ne marchent plus. Mais avant d'étudier ces choses-là, nous allons voir ces petites choses devant lesquelles on ne peut rien faire si ce n'est que de les reconnaître, qu'elles existent, qu'elles sont là et que ça ne dépend pas de nous. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, elles sont petites. Je vous donne cet exemple. L'idée que nous devons avoir de nous-mêmes face à la grandeur de Dieu. Comment est-ce que vous vous considérez? Est-ce que vous vous considérez de manière grandiose en disant « mais moi je suis quelqu'un, moi j'ai réussi dans ma vie, moi j'ai réussi à faire quelque chose ». Bon, peut-être que c'est vrai, mais je vous parle face à la grandeur de Dieu. Comment est-ce que nous nous considérons? Tout petit. Et nous voyons dans la parole des personnes qui, à un moment donné, un roi en particulier, à un moment donné, il est dit qu'il se voyait, il était petit à ses yeux. Vous vous souvenez de qui c'est? Le roi Saül. Avant de devenir roi, il était petit à ses yeux. Samuel lui dit, dans un verset, « Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi d'Israël ?» Saül, qui avait une tête au-dessus de tous les autres Israélites, donc il était grand en taille, mais il était petit à ses yeux, il était rempli d'humilité. C'est pour cela que le regard du Seigneur s'est posé sur sa vie, c'est pour cela qu'il y a eu l'onction royale qui a été déversée sur sa vie, qu'il a été mis à part pour devenir le chef de cette nation d'Israël, parce qu'il était petit à ses yeux. Et quelle
Quelle leçon cela nous donne pour nous de nous dire que nous avons besoin d'être petits à nos yeux pour recevoir l'onction de Dieu sur notre vie. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. En tout cas, moi, ça m'intéresse et combien je veux m'appliquer à rester avec cette dimension que oui, je suis petit à mes yeux par rapport au Seigneur. Mais le problème que l'on rencontre, c'est que des fois, des gens, comme je le disais, ils sont un peu trop optimistes par rapport à leur cœur. On voit l'exemple de ce pharisien qui est à côté du publicain. Vous avez vu comment il est optimiste, ce pharisien ? Moi, je donne ma dîme toutes les 3 jours. Moi, je fais ceci, moi, je fais cela. Moi, je ne suis pas un pécheur. Moi, je ne suis pas ceci. Il est optimiste pour lui-même. On est d'accord. Mais il ressort de l'église. Dieu n'a pas écouté sa prière. On ne doit pas se voir trop grand, mais on ne doit pas non plus se voir trop petit. Comprenez ? Il faut avoir cette vision, pas une vision optimiste de nous-mêmes, pas une vision pessimiste, il faut avoir une vision réaliste, c'est-à-dire reconnaître que l'on est petit, mais reconnaître que l'on a un grand Dieu qui peut tout et qui peut pallier à chacune de nos faiblesses. Et si on est petit, si on est faible, le Seigneur, lui, est celui qui nous communique par son Saint-Esprit la force, l'amour, la sagesse dont on a besoin. Voilà pourquoi nous avons besoin de cette communion avec lui. Je prends cet exemple que vous connaissez dans les Nombres, on peut le lire ensemble. Nombres chapitre 13, c'était justement un problème qui touchait les espions quand ils sont revenus de leur mission d'exploration du pays. Dans Nombres chapitre 13, verset 31, vous savez, ils sont revenus, ils ont fait un rapport et ils ont commencé à murmurer contre Moïse parce qu'ils ont vu des géants, ils ont vu toutes sortes de choses, ils étaient découragés, ces hommes. Nombres chapitre 13, verset 30. Il y avait Josué et Caleb qui étaient là et qui, eux, étaient restés fidèles. Et justement, il dit ceci. « Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse » au verset 30. Et il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer » est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à leurs yeux et aux yeux, et aux leurs, comme des sauterelles. Alors eux, ils se voyaient petits, mais ils se voyaient plus petits que ce qu'ils étaient. Vous imaginez des sauterelles ? Prenez une sauterelle à côté d'un homme. Il y a quand même une différence. Mais vous voyez comment la peur, le découragement, la crainte et tout ce que vous voulez ont fait que ces hommes ont totalement oublié ce que Dieu avait donné comme promesse. Après tout, qui c'est qui s'était engagé à leur donner le pays ? Est-ce que c'était Moïse ? Est-ce que c'était Aaron ? Est-ce que c'était Josué ou Caleb ? Non, c'est Dieu qui s'est engagé. Et des fois, on est là, Dieu nous fait des promesses que lui s'engage, mais on se voit trop petit. Et c'est sûr, si on regarde qu'à nous, et si on regarde qu'à l'ennemi, on va vite faire une dépression. Mais si on regarde au Seigneur, et si on regarde à la grandeur de notre Dieu, si on regarde au fait que notre Dieu est le Tout-Puissant, celui qui est au-dessus de toutes circonstances, il est le maître des temps et des circonstances, alors notre cœur va être encouragé. Alors on va avoir cette vision réaliste. Oui, je suis faible, mais quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, parce que je peux m'accrocher à mon Seigneur. Oui. Nous avons besoin d'avoir cette idée réelle de notre petitesse, mais de la grandeur de Dieu. Quelque chose qui est encore petit et qu'il faut réaliser, qu'il faut prendre attention, se trouve dans le psaume 39, verset 6. C'est psaume 39, verset 6. Il est dit ceci. Alors, ce n'est pas 39. J'ai marqué la mauvaise référence. Peu importe, je vous retrouverai la référence si vous venez me voir à la sortie. Je vous le lis pour... Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Tout homme debout n'est qu'un souffle. Est-ce que la vie d'un homme, c'est quelque chose de grand ? Est-ce que la vie d'un homme, c'est quelque chose de long, et d'éternel, et d'infini ? On voit bien dans ce passage, et même par l'expérience, on le sait, que la vie de l'homme, elle est courte. C'est le nombre de jours est petit. Quand Pharaon Il demande au père de Joseph de venir, à Jacob, il demande à Joseph de présenter son père. Il lui dit, mais quel âge as-tu? Joseph, il dit, j'ai 130 ans. Et il dit, le jour des années de ma vie a été peu nombreux. Pourtant, il a 130 ans. Et il dit, quand je regarde à ce que mes pères ont vécu, etc. Je pense que quand on pourra dépasser 130 ans, on pourra dire, bon, je commence à avoir une vie assez longue. Mais de nos jours, c'est quelque chose de difficile. Voilà pourquoi je crois que oui, s'il y a bien quelque chose de petit qu'il faut réaliser, c'est la durée de notre vie. Mais nous n'avons pas besoin seulement de réaliser, de l'accepter, tout le monde l'accepte, parce qu'on n'a pas le choix. Mais nous avons besoin surtout de bien utiliser notre vie. Bien utiliser cette vie est-ce que la vie de Dieu qu'il nous a donnée, c'est pas une richesse qu'il a mis entre nos mains pour que nous puissions l'utiliser pour sa gloire afin qu'il puisse nous récompenser aussi par la suite. D'abord, bien utiliser sa vie, c'est se rendre compte que notre vie en elle-même, elle est petite, elle n'est rien, elle est souillée par le péché. Et bien utiliser sa vie, c'est d'abord dire, Seigneur, je te demande pardon pour mon péché. J'ai compris que ma vie en elle-même, elle n'est rien, je ne peux rien faire. Je veux te la porter, Seigneur, pour que tu la laves, pour que tu la purifies et pour qu'après je puisse devenir ton serviteur. Qui sait qui saura le mieux utiliser notre vie? Est-ce que c'est nous-mêmes? Est-ce que c'est le meilleur des hommes, le plus intelligent, le meilleur des philosophes sur cette terre pourra dire, voilà comment il faut faire pour bien utiliser sa vie? Ou est-ce que c'est pas le créateur de la vie qui pourra nous dire comment on peut bien l'utiliser? Oui, la vie est petite, mais nous devons réaliser qu'entre les mains du Seigneur, cette vie peut devenir quelque chose de merveilleux parce que le Seigneur, il est le Dieu de la bénédiction. Et une autre chose se trouve dans Apocalypse, là c'est très facile à trouver, c'est la dernière page de la Bible, Apocalypse chapitre 22. Dans ce dernier chapitre, on remarque qu'il y a une expression qui revient à trois reprises. Ça revient même quatre fois dans l'Apocalypse, mais dans le dernier chapitre, on voit que cette expression revient à trois reprises. Apocalypse 22, verset 7. Apocalypse 22, verset 7, c'est Jésus qui parle et dit « Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Regardez au verset 12, « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. » Et au verset 20, « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. » Trois fois à la fin de la Bible, Jésus prend soin de dire « Je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt. » Et quand il dit ces choses à l'apôtre Jean, c'était au moment où, à peu près vers le 100 ans après Jésus-Christ, à peu près, la date. Et dans ce premier siècle-là, l'apôtre Jean reçoit cette vision. Et dans la fin de cette vision, Jésus à trois reprises dit « Je viens bientôt, je viens bientôt, je viens bientôt. » Et maintenant, il s'est passé un petit peu de temps depuis ces paroles. On est d'accord? Quelques années. Mais la parole est toujours vraie. La parole est toujours proclamée. Jésus dit toujours « Je viens bientôt. » Mais on pourrait rajouter « Je viens très 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 bientôt. » Parce que 2000 ans après, si le Seigneur il y a 2000 ans il a pu dire « Je viens bientôt », aujourd'hui il peut dire « Je viens très bientôt. » Il ne reste pas beaucoup de temps. Quelque chose qui est petit, c'est le temps qu'il reste jusqu'au moment où le Seigneur va revenir. Et avec cette réalité-là, oui, je la reconnais, oui, je l'accepte, mais plus que de la reconnaître et l'accepter, je vis avec cette réalité. Je ne veux pas seulement savoir de manière intellectuelle que Jésus revient, mais je veux être prêt, et non seulement je veux être prêt, mais je veux que le maximum autour de moi puisse être prêt pour que Jésus puisse les prendre aussi avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez cette réalité? Est-ce qu'elle est claire dans votre esprit que il n'y a pas beaucoup de temps qui reste et que nous devons nous mettre à l'œuvre, nous devons nous lever et travailler à cela? C'est des petites choses qu'il faut reconnaître. C'est des grandes réalités, mais ce sont des petites choses dans la durée. Maintenant, il y a ces choses qu'on doit refuser. Être fidèle dans les petites choses, c'est dire non à tout ce qui est néfaste, tous ces petits détails de la vie qui sont néfastes. Je pensais à cet exemple. Imaginez quelqu'un qui fait une promenade sur un sentier. Bon, le fait de faire un pas, il n'y a rien d'extraordinaire en cela. Quelqu'un qui marche sur un sentier, il n'y a pas d'effort extraordinaire et il n'y a pas de conséquences particulières, si ce n'est qu'il avance. Maintenant, quelqu'un qui avec la même force, la même intensité, avance, mais il se trouve au bord d'un précipice. Le petit pas qui est le même que sur le sentier va avoir une conséquence totalement différente parce qu'il est un entrant droit. Comprenez ? Il y a des petites choses qui peuvent être totalement difficiles en fonction du moment où on le fait, en fonction de l'endroit où on se trouve. Et c'est exactement la même chose. La parole de Dieu nous parle, par exemple, dans le Cantique des Cantiques, c'est un verset qu'on ne lit pas souvent, donc on pourrait le prendre ensemble. Le Cantique des Cantiques nous parle des petits renards. Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15. C'est mignon, un petit renard. Oui, mais ça dépend. Les vignes, elles disent pas la même chose. Alors, chapitre 2, j'ai pas encore les bonnes références. Verset. Chapitre 2. J'ai dit verset 15. Ah oui, c'est parce que je suis dans l'Ecclésiaste, voilà. Prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. Prenez-nous les renards. Mais ce n'est pas des gentils petits renards qui sont doux, qu'on a envie de caresser. C'est des renards qui ravagent des vignes. Et ils le font au moment où les vignes sont en fleurs. Il se trouve qu'en Israël, il y avait beaucoup de renards, il y avait beaucoup de ces animaux-là, et ils avaient une fâcheuse tendance, c'est de creuser au niveau du cep, dans les vignes, et donc ils faisaient tomber les ceps, et avec leur queue, quand ils passaient dans les vignes, ils faisaient tomber la fleur de la vigne. Et la fleur de la vigne, c'est quelque chose qui est très fragile, très volatile. Quand on passe dedans, il suffit de pas grand-chose pour que ça s'envole, et avec leur queue, c'est ce qui se passait. Et la vigne pouvait grandir, il pouvait y avoir peut-être des feuilles qui poussaient, mais quand on allait chercher le fruit, il n'y avait plus rien. Pourtant, c'était quoi ? C'était des petits renards. Là, en apparence, la vigne, elle avait poussé, le producteur, il devait être content, et puis quand il s'approche, il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y a pas des petits renards dans nos vies ? Est-ce qu'il n'y a pas des petites choses comme ça, des petits péchés qui sont là, je mets entre guillemets petits péchés parce que c'est une expression qu'on emploie, mais devant Dieu, il n'y a pas de petits ou de grands. Mais souvent, on emploie cette expression, oh, c'est un petit péché, c'est pas trop grave. C'est une chose que je n'ai pas envie de régler, c'est une chose que je tolère dans ma vie, et ce que je ne vois pas, tout a l'air d'aller bien, même aux yeux des autres, tout a l'air d'aller bien dans ma vie, mais ce que je ne vois pas, c'est que petit à petit, mon cœur et ma vie est grignoté. Et au bout d'un moment, les dégâts sont là. Et le petit renard, il a amené des grands dégâts, parce qu'il n'y a aucun fruit dans ma vie peut-être. Quelqu'un soupire depuis tant et tant de temps en disant « Seigneur, je veux porter du fruit ». Le Seigneur vous dit « supprime les petits renards, refuse-les ». Ce n'est pas question de dire « Seigneur, fais le travail ». Non, non, c'est à nous de dire « Jésus, j'ai besoin de toi ». Souvent les gens prient pour des choses qu'eux doivent faire. Et demandent à Dieu de faire ce qu'eux doivent faire. Et cette prière-là, je suis désolé de vous dire, ou je suis plutôt heureux de vous le dire, parce que c'est une bonne nouvelle, elle ne sera jamais exaucée. Il faut faire ce que Dieu vous demande de faire. Si vous devez vous repentir, repentez-vous. Ce n'est pas Jésus qui va venir se repentir pour vous. Jésus, lui, il a fait sa part en donnant sa vie. Son sang a été versé pour que vous puissiez être lavé par la repentance. Si vous devez dire au Seigneur, j'ai besoin de toi, je ne sais pas comment m'en sortir, mais faites-le de tout votre cœur. Refusez les petits renards. Matthieu 14 nous donne cet exemple de Pierre qui marche sur l'eau. Et Pierre fait cette expérience incroyable, il voit le Seigneur Jésus, « Seigneur, permets que je vienne », et le Seigneur lui dit « Viens », et il commence à enjamber la barque, il commence à marcher sur l'eau. Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé vivre ? Je crois qu'il y a tous les chrétiens aimeraient vivre cette expérience, mais à un moment donné, il se passe quelque chose, c'est qu'il commence à regarder autour de lui, il commence à voir ce qui se passe, qui l'environne, il regarde plus envers le Seigneur Jésus, et il commence à s'enfoncer. Matthieu 14, 31, « Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Jésus lui reproche la petitesse de sa foi. « Homme de peu de foi. » Pourtant, à un moment donné, juste avant, dans les minutes d'avant, les secondes d'avant, il a eu une foi incroyable pour pouvoir marcher sur l'eau, parce qu'il s'est appuyé sur la parole. Mais il a laissé les circonstances atrophier sa foi. Il a laissé les circonstances faire que sa foi devienne plus petite. Et comment ça s'est passé? Quand il a regardé les vagues, il a regardé l'obscurité, il a regardé peut-être les éclairs, il a regardé le vent qui soufflait, il a regardé tout ça. Il a peut-être juste eu un petit regard. Un petit regard, mais qu'est-ce que c'est un petit regard? C'est pas bien grave. Oui, mais quand c'est au moment où on est dans la tempête, quelles conséquences ça a? Il commençait à couler. Et s'il n'y avait pas eu la grâce de Jésus-Christ qui a tendu sa main, Pierre serait peut-être mort noyé. Nous, on sait la fin de l'histoire, donc on se dit, oui, on sait que le Seigneur Jésus l'a pris. Mais imaginez un instant que Jésus ne tente pas sa main. Il serait mort. Ah, tout ça à cause d'un petit regard. Voilà pourquoi c'est important. Les choses que nous regardons, mais je parle du regard, je parle aussi de ce que nous entendons. Toutes ces petites choses qui sont là, mais pour nous détourner. Voilà en fait le problème. Il y a des petites choses qui nous détournent de Jésus-Christ, qui nous détournent de ce que Jésus veut apporter dans notre vie, qui nous détournent de la foi, qui nous amènent à avoir cette foi petite. Nous devons refuser une petite foi. Nous devons refuser de nous contenter d'une petite foi. À un moment donné, les disciples sont venus voir Jésus, ils ont dit « Augmente notre foi ». Bien sûr, ce n'est pas une question d'avoir une grande foi pour épater la galerie, mais ça, c'est d'avoir la foi que Dieu veut qu'on ait pour affronter les circonstances dans lesquelles le Seigneur nous a placés pour que nous puissions être victorieux. Pour chacune des situations que nous vivons, chacune de nos vies en particulier, le Seigneur sait la mesure de foi dont nous avons besoin. Est-ce que vous croyez qu'il va nous donner, mais il va se tromper dans les comptes? J'ai besoin de beaucoup de foi, mais le Seigneur va me donner que quelques gouttes. Ce n'est pas notre Seigneur, ça. Notre Dieu est celui qui pourvoit et qui va donner à celui qui a soif, il va donner avec abondance et plus qu'il en a besoin même, parce que notre Seigneur est le Dieu de la bénédiction. Mais il faut refuser la petite foi. Il faut refuser le sommeil. Proverbe chapitre 10. Vous connaissez ces passages. Proverbe chapitre 10 et le verset 6. Alors, j'ai encore un problème de... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais toutes mes références sont pas bonnes. Bon, c'est ça? Proverbe 10:6. Ce n'est pas ça que je voulais. Donc je vous le lis. Excusez-moi. Va vers la fourmi paresseuse, je vous trouverai les références à la fin. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Regardez ce qu'il est dit. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Comment? Comme un homme en armes, et la disette comme un rôdeur. Un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains. Et on imagine la personne qui est sous l'arbre là, ou dans le hamac, en train de s'assoupir, en train de croiser les mains, en train de commencer à être gagné par ce moment juste après avoir mangé vers 14h. 15h30 c'est bon, hein, 16h30 on dort plus, hein, vous êtes d'accord. Mais vous imaginez après le repas, quelqu'un qui commence à faire la sieste. Est-ce que c'est mal de dormir? Est-ce que c'est mal de dormir quand c'est l'heure de dormir? Quand c'est le soir et qu'on a travaillé toute la journée, est-ce que c'est mal? C'est normal. C'est pas mal, c'est normal. Maintenant, qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'heure dans laquelle on se trouve? Est-ce que vous savez ce que dit la parole? La parole nous dit, au travers de l'apôtre Paul, c'est l'heure de vous réveiller. Voilà l'heure dans laquelle on est aujourd'hui. C'est pas l'heure de dormir spirituellement. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. C'est l'heure de nous lever, c'est l'heure d'accomplir ce que le Seigneur nous demande de faire. Et nous devons refuser le sommeil, nous devons refuser cet assoupissement spirituel, nous devons refuser tout ce qui voudrait anesthésier notre esprit pour qu'on ne s'occupe plus de l'œuvre de Dieu, mais qu'on s'occupe de notre petit confort à nous. Ah, c'est vrai, quand on dort, on ne pense plus à grand-chose. On se repose, tout est bien. Vous savez, quelqu'un qui a faim et qui s'endort, il oublie qu'il a faim pendant qu'il dort. Sauf que quand il se réveille, il a toujours faim, et voire plus faim. Tandis que quelqu'un qui sait que c'est l'heure de se réveiller et qui se met à l'œuvre, le Seigneur va le bénir. Mais nous devons refuser le sommeil, refuser la négligence, refuser la paresse, refuser toutes ces activités qui sont là pour nous détourner de Jésus.
Allez, un autre passage. J'espère que la référence sera bonne. Ecclésiaste, chapitre 10. Oui, verset 1er. Ecclésiaste 10, verset 1er. Il faut refuser le petit sommeil, refuser un peu de folie. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Vous connaissez cet exemple et cette réalité? Cette illustration qui est donnée, c'est que quand il y a une mouche qui tombe dans quelque chose, au bout d'un moment, ça va infecter. Là, c'est l'huile du parfum, par exemple. Et il suffit de pas une grande chose pour que ça puisse être infecté. Une petite mouche, qu'est-ce que c'est une petite mouche? Face à des litres et des litres d'huile de parfum. Oui, mais si on la laisse dedans, et si on laisse le temps à l'infection de se propager, alors tout va être infecté. Quelle image ça nous donne? Les mouches mortes, ça représente ces petites pensées qui sont là dans notre cœur et que l'on laisse. Peut-être le doute, quelqu'un a une pensée de doute depuis des années, du découragement, de la tristesse. Et c'est vrai que ça arrive à tout le monde. Est-ce que c'est mal d'avoir une pensée de doute à un moment donné? Je veux dire, tout le monde en est à la même enseigne. On le vit tous cela. Par contre, quand ça nous traverse, nous avons tous le choix de dire « je refuse que la pensée de doute s'installe. Je refuse que la tristesse demeure plus qu'elle ne doit demeurer. Je refuse que le découragement s'installe dans ma vie. Je veux prendre courage. Je veux puiser dans la force de Dieu. Je veux puiser dans la présence de Dieu tout ce dont j'ai besoin. » Souvent, ce n'est pas immédiat. Ce ne sont pas des choses qui sont immédiates. Mais quand ça fait des années et des années qu'on traîne la même pensée de découragement, quel dommage. Des fois, il y a des personnes qui doutent sur des aspects de la doctrine qui ne comprennent pas. Et au lieu de venir peut-être nous poser la question, ils sont là, ils ruminent, et ils sont tristes et ils n'en peuvent plus. Et puis, il faut des fois qu'on demande un entretien parce qu'à force, on se rend compte qu'ils sont tristes. Des fois, on est lent à la détente, mais le Seigneur, il nous aide. Et puis, pendant l'entretien, ça fait des années que je bute sur ce problème. Et en leur montrant un verset de la parole, c'est réglé en 3 secondes. Et ça fait des années que vous traînez ce problème, alors qu'en lisant la parole de Dieu, ou en posant la question, vous auriez pu le régler. Combien c'est important de refuser les petites mouches, de nettoyer tout ça, et de dire « Seigneur, je veux avoir cette vie qui soit un bon parfum pour toi. » Des petites choses qu'il faut refuser, mais il y a des petites choses qu'il faut respecter. Soyez fidèles dans les petites choses, c'est aussi respecter, prendre soin de tout ce qui est bon. Vous connaissez c'est pas un verset, ça c'est un proverbe. Les petits ruisseaux font de grandes rivières. Et combien c'est vrai qu'avant que ça devienne des torrents immenses, ça passe d'abord par le petit ruisseau de montagne qui retombe dans une petite rivière, qui retombe au fur et à mesure, ça donne les grands torrents. Mais ça commence tout petit. Et le danger que nous avons, c'est de mépriser ce qui est petit. Est-ce que Dieu nous demande de respecter? Je pensais à cet exemple dans le livre des Rois, le premier livre des Rois, chapitre 18. Vous savez, c'est un temps où le peuple d'Israël connaît une sécheresse, une famine. Ça fait plusieurs années qu'il y a la famine, la sécheresse dans le pays. Et dans 1 Rois, chapitre 18, verset 41, il y a cette histoire qui est dit. Élie, c'est un homme de foi qui a fait une prière pour que le ciel se ferme, parce que le roi était méchant, le roi Achab, il était méchant, et Dieu, il a écouté la prière de son serviteur. Il a fermé le ciel, pas de pluie qui est tombée pendant 3 ans. Et au verset 41 du chapitre 18, Élie dit à Achab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. »
Achab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit, « Retourne, retourne sept fois. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Qu'est-ce que c'est un petit nuage face à une sécheresse de tout un pays? Qu'est-ce que c'est? Et vous avez remarqué qu'avant même que Élie il voit le petit nuage, il avait dit, il se fait un bruit qui présage de la pluie. Parce qu'il avait, il regardait pas avec les yeux de la chair, il regardait avec les yeux de la foi. Et Élie, il avait la certitude que Dieu allait exaucer. Mais à un moment donné, le serviteur, il revient, oui, oui, ça y est, il y a un petit nuage, mais bon, il n'est pas très grand, il est comme la paume d'une main. Et regardez ce qu'il fait Élie. Élie dit, monte et dit à Achab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte pluie, Achab monta sur son char et partit pour Jisraël. Amen. En quelques instants, le petit nuage est devenu une forte pluie. Et la forte pluie, est-ce que maintenant c'était quelque chose qui pouvait venir au secours de cette sécheresse dans le pays? Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'est ce qu'il y avait besoin? Oui. La Bible nous dit à un certain endroit dans Zacharie, je crois, c'est de ne pas mépriser les faibles commencements. Des fois, il y a des prières que l'on fait et le Seigneur nous exauce, il commence à nous exaucer. Et c'est vrai qu'au début, ça paraît un petit nuage. C'est vrai que ça paraît pas grand-chose, ça paraît pas répandre. Nous, on a la sécheresse dans notre pays, pour reprendre l'image, et le Seigneur envoie un petit nuage seulement. Mais nous devons avoir cette foi qui a animé Élie, qui a fait que, quand il a vu le petit nuage, lui, il savait que Dieu avait exaucé déjà. Il savait que c'était en cours, la bénédiction de Dieu était en cours. Et quand on remet nos situations, nos petites situations, les faibles commencements, quand on les place entre les mains du Seigneur, alors le Seigneur, lui, multiplie, le Seigneur est béni, le Seigneur y pourvoit. Un petit nuage face à un désert. Qu'est-ce que c'est une petite fille face à un guerrier puissant? Qui c'est le plus fort? Ça dépend dans quel domaine. Parce que dans la parole, on voit qu'une petite fille, esclave, dans un pays étranger, elle était employée par un grand chef général de l'armée de Syrie, Naaman. Une petite fille contre un grand guerrier qui avait toutes les armes qu'il fallait, l'armure magnifique, mais il avait un problème, il était lépreux. Et la petite fille, Dieu l'a utilisée pour que cet homme, tout général qu'il était, qui était dépourvu face à sa maladie, puisse être béni. Une petite fille qui a remis sa vie entre les mains de Dieu est devenue une bénédiction. Et grâce à son témoignage, il y a eu la guérison de cet homme. Et je suis sûr que non seulement il y a eu la guérison de cet homme, mais il y a eu aussi le témoignage de Dieu qui s'est propagé dans toute la Syrie grâce à cet homme. Une petite fille. Souvent on est là, oui c'est vrai je suis petit, je ne sais pas parler, je ne sais pas ceci. Mais si nous plaçons notre petitesse dans les mains du Seigneur, alors c'est lui qui multiplie. Je vous donne deux autres exemples. Un petit caillou face à un géant. Qu'est-ce que c'est un petit caillou face à un géant? Vous imaginez, en plus un géant, c'est vraiment, il est grand, hein, presque 3 mètres, ou plus de 3 mètres, je ne sais plus exactement. Mais un petit galet, qu'est-ce que c'est? Un petit berger qui est là, avec son bâton, face à un géant qui a une armure, qui a une épée, une lance, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que c'est? Aux yeux humains, c'est la mort du berger. Mais quand quelqu'un de petit se place entre les mains de Dieu, alors il y a le miracle de Dieu qui prend place. Quand celui qui reconnaît sa petitesse, qui fait confiance dans la grandeur de son Dieu, alors il y a la victoire qui est là. Et David, il pourra dire, ce n'est pas par l'épée ou la lance que Dieu sauve, mais c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui donne la victoire. C'est pas les armes de la chair qui remportent la victoire. C'est le Dieu Tout-Puissant qui donne la victoire. Qu'est-ce que c'est un petit pique-nique face à une foule immense? Vous imaginez si j'amenais un sandwich au saucisson, allez, pour tout le monde ici cet après-midi. Qu'est-ce que c'est? On essaierait de le couper autant qu'on pourrait, mais on n'aurait que des miettes. Mais quand un petit garçon, il a placé son petit repas, il ne les a pas placés n'importe où. Il les a placés dans les mains du Seigneur Jésus. Et voilà la pensée cet après-midi, la pensée importante, c'est que les petites choses de nos vies qui sont bonnes, est-ce que nous les plaçons entre les mains du Seigneur? Est-ce que nous les respectons? Est-ce que nous en prenons soin? Mais surtout, est-ce que nous les plaçons entre les mains du Seigneur? Notre vie, si nous reconnaissons, oui, que nous sommes faibles, oui, que nous sommes petits, oui, que c'est difficile de tenir dans ce monde, dans cette société dans laquelle on est, c'est dur, ça va être de plus en plus dur, les temps sont difficiles, c'est sûr. Tout ça, la Bible nous le dit. Mais elle nous dit aussi, veillez et priez, afin que vous ayez la force. Veillez et priez. Placez votre vie dans la main de Dieu. Et voilà ce qui se passe, c'est que quand on est fidèle dans les petites choses, quand on est fidèle avec ce que Dieu nous donne, Dieu nous en confie de plus grandes. Dieu bénit, Dieu pourvoit, Dieu fait un travail que nous on ne pourra jamais faire. Et si on vise tout de suite, les gens souvent ils veulent viser les grandes choses. Souvent on voit des jeunes qui ils veulent pas servir Dieu dans l'église, ils veulent surtout pas passer le balai, mais ils veulent prêcher par contre à des foules. Est-ce que c'est ça que Dieu demande ? Jésus l'a dit, si vous voulez être grand, vous devez être le serviteur. Celui qui veut être le plus grand dans le royaume de Dieu, il doit servir son frère, sa sœur. Cet après-midi, je ne sais pas, j'espère que vous voulez être grand, mais dans le bon sens. Alors reconnaissez votre petitesse. Et reconnaissez surtout que celui qui est grand, c'est le Seigneur. Et que s'il y a quelque chose que vous ne pouvez pas faire dans votre vie, s'il y a un obstacle, si vous, dans votre vie, il n'y a qu'un petit nuage qui est là, la présence de Dieu, c'est comme ce petit nuage, et vous pensez que ça ne va pas arriver à combler tous vos besoins, placez-vous entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur va transformer ce petit nuage dans cette pluie abondante de l'arrière-saison qui va pouvoir inonder votre vie, et non seulement votre vie, mais la vie de ceux qui vous entourent. Celui qui croit en moi, qu'est-ce qu'il a dit Jésus ? Des fleuves d'eau vive. Il n'a pas dit des gouttes d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront. Tout ça parce que la personne croit. Elle croit qu'elle est petite, elle croit qu'elle est pécheresse, mais elle croit que Jésus pardonne et que Jésus bénit. On va incliner nos fronts, fermer nos yeux. Être fidèle dans les petites choses, oui. C'est ce que le Seigneur nous demande. Vous savez que Dieu, pour se glorifier, il n'utilise pas les grands. Il utilise les choses faibles et les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Le Seigneur nous demande peut-être à quelqu'un cet après-midi, quelqu'un qui a une haute estime de lui. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, moi j'ai tant de diplômes, moi j'ai tel travail, moi j'ai tant d'argent. C'est peut-être vrai. Mais est-ce que vous avez ce qui est le plus précieux, le plus important ? Est-ce que vous avez le salut de votre âme ? Si ce n'est pas le cas, repentez-vous cet après-midi. Reconnaissez votre petitesse. Reconnaissez aussi que Jésus a montré la grandeur de son amour. Alors que je préparais ce message, je réfléchissais que notre Seigneur Tout-Puissant, qui vit d'éternité en éternité, a choisi de venir pour un temps limité sur cette terre. Qu'est-ce que c'est 33 ans environ par rapport à l'éternité ? Qu'est-ce que c'est 3 ans de ministère par rapport à l'éternité ? Qu'est-ce que c'est une après-midi, une journée sur la croix par rapport à l'éternité ? C'est rien. Mais quand ce temps-là est passé dans l'obéissance parfaite, c'est le cas du Seigneur Jésus. Tout ce qu'il a fait, tout le temps qu'il a passé sur la terre, c'était à cause de son obéissance parfaite. Ce petit temps, par rapport à l'éternité, s'est transformé en une bénédiction, et non seulement pour ceux qui étaient ses contemporains, mais pour tous les hommes, et des multitudes d'hommes. Jusqu'à aujourd'hui, nous pouvons vivre la bénédiction de ce petit temps que le Seigneur Jésus a passé sur la terre parce qu'il a obéi. Est-ce que ce n'est pas le bon exemple pour chacun de nous de dire « Oui, ma vie est petite, mais je veux la placer entre les mains de Dieu. Je veux obéir, je veux avoir la crainte du nom de Dieu. Et je sais que dans ces conditions-là, si je suis fidèle dans les petites choses, le Seigneur va me confier de plus grandes. Le Seigneur va bénir ma famille, le Seigneur va m'exaucer, le Seigneur va me délivrer, le Seigneur va me guérir. Cet après-midi, nous allons partager ce saint repas et nous voulons nous souvenir, oui, que le petit temps que Jésus a passé sur la croix, même si ça a été court, ça a été dans des souffrances totalement atroces, son sang a été versé pour nous, pour notre péché. Son corps a été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Mais ce petit temps, parce qu'il était totalement 100% dans la volonté de Dieu, s'est transformé en une bénédiction. Cet après-midi, si nous sommes là, si nous pouvons nous réunir, si nous pouvons prendre ensemble la Sainte Cène, c'est parce que Jésus a fait cela. Combien nous voulons bénir son saint nom. Et combien aussi nous voulons imiter son exemple. Je vais prier le Seigneur. Merci Éternel. Merci parce que tu nous donnes, Seigneur, de comprendre ta parole cet après-midi un petit peu plus, de comprendre, Seigneur, ce que nous devons refuser, ces petites choses qui sont là dans nos vies. Oui, nous devons refuser les péchés que nous souvent nous tolérons, ces petites choses qu'on ne voit pas, qui sont dans nos cœurs, Seigneur, mais qui sapent totalement notre vie. Seigneur, dans ces instants, oui, choisissons de les refuser. Refuser peut-être petite parole qu'on a tendance à dire, cette parole méchante, cette parole, cette mauvaise pensée. Seigneur, tout cela, nous voulons le refuser. Parce que ça a des conséquences tellement grandes de destruction. Et nous voulons, Seigneur, respecter ta présence. Oui, Seigneur, tu nous appelles à avoir ces instants de communion jour après jour. Et nous voulons, Seigneur, respecter, obéir, placer nos petites vies entre tes grandes mains pour que tu puisses les bénir et multiplier. Merci pour les exemples que tu nous as donnés dans ta parole. Ce jeune garçon qui n'avait pas grand-chose, mais qui l'a placé entre tes mains. Cet après-midi, Seigneur, nous n'avons pas grand-chose. Nous ne sommes pas grand-chose, mais nous nous plaçons dans tes mains. Tes mains qui ont été percées pour nous. Seigneur, dans ces instants, oui, nous avons soif. Soif de te plaire, soif de t'obéir, soif d'être des bénédictions aussi dans ce monde. Merci de bénir ces instants, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Amen.